Sa bienveillance est efficace, est une expression traduite de diverses manières. Le terme hébreu rendu ici par bienveillance est chesed, ce qui indique la bonté, la fidélité, la fiabilité, la loyauté, l'équité, c'est-à-dire le sens de la justice. C'est en fait la vertu relationnelle suprême qui rend capable de traiter autrui du mieux possible avec amour. Efficace est aussi un terme qui mérite une explication. Le mot hébreu est gavar, qui signifie fort, puissant, qui atteint son but. Donc la bienveillance de Dieu à l'égard du pécheur qui se repent est efficace, et elle atteint son but qui est la réconciliation. L'être humain qui veut atteindre son but spirituel et être efficace au service de Dieu doit quant à lui développer sa spiritualité, sa relation à Dieu, de façon à laisser Dieu être efficace en lui. Donc le verset 12, il éloigne de nous nos transgressions, fait aussi écho à de nombreux enseignements de la révélation chrétienne. Je me souviendrai toujours de Serge, un détenu rencontré au début de mon ministère d'aumônier de prison, qui, en larmes, m'a montré un jour le feuillet d'un calendrier biblique qui portait comme verset du jour Michée 7,19, tu jettes leurs péchés au fond de la mer. C'est vrai alors, demandait Serge, qui depuis a fait avec le Seigneur un magnifique parcours de guérison intérieure. Ainsi, lorsque le pécheur ne rejette pas Dieu, mais s'en approche par une conversion sincère, ce n'est pas non plus le pécheur que Dieu rejette, mais le péché et ses conséquences spirituelles. Dieu n'impute pas le péché au converti, à celui qui, dans un acte de foi et d'abandon à Dieu, demande pardon et s'engage à le servir, selon ce que nous lisons au verset 18, où il n'est bien sûr pas question de mener, après la conversion, une vie indifférente à Dieu sous prétexte d'avoir reçu le pardon, mais bien au contraire de servir dorénavant Dieu en gardant la foi et les commandements. Donc j'en reviens aux détenus à qui j'ai affaire. Ils ont parfois commis des crimes, ils ont parfois commis des délits financiers, parfois ils se sont laissés embarquer dans la délinquance par maladresse ou naïveté, ou ont causé des accidents par imprudence. Il en est aussi qui se retrouvent derrière les barreaux de façon injuste. Alors au dehors, il y a les honnêtes citoyens qui ont le sentiment de ne pas avoir fait de mal, exception faite de quelques médisances, coups de colère, ou mauvaises pensées par-ci par-là. Tout existe, hein. En prison comme à l'extérieur, on peut imaginer tous les cas de figure. Alors, nous sommes tous pécheurs cependant, au même titre. Nous sommes tous rebelles contre Dieu. Et chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, la parole de Dieu proclame la possibilité du pardon et de la purification du cœur par la foi au Christ ressuscité pour nos péchés, crucifié pour nos péchés, pardon, et ressuscité pour nous ouvrir le royaume de Dieu. Donc cette notion de purification est très importante. Certains des auditeurs de cette prédication n'ont peut-être pas une très bonne image d'eux-mêmes. Alors prenez conscience que Dieu vous aime au point que son Fils est mort pour vous personnellement, que Dieu a mis le comble à son amour sur la croix, et qu'il vous attend dans la Nouvelle Jérusalem. Prenez conscience du fait qu'il veut vous purifier des conséquences spirituelles de votre péché, qu'après la conversion, il ne nous l'impute plus, que notre péché, notre impureté est au fond de l'océan, aussi éloigné de nous que l'ouest de l'est, le pôle nord du pôle sud. Si tu le veux, tu peux me rendre pur, a un jour dit à Jésus un lépreux qui avait décidément tout compris. Il est particulièrement douloureux de constater que bien des chrétiens authentiques qui ont fait l'expérience de la conversion intérieure et qui ont accédé à la certitude du salut continuent d'avoir d'eux-mêmes une image déplorable et à ne pas se voir comme Dieu les voit. Après la conversion, nous devons laisser émerger notre nouvelle nature et en prendre conscience. À la conversion intérieure, nous recevons le Saint-Esprit qui nous donne la force de cheminer dans la sanctification. Le chemin est long et parfois rude, mais Dieu veut que nous le vivions avec la reconnaissance, avec reconnaissance et jubilation, pas dans l'amertume et la mortification. Donc nous sommes, alors il est écrit aussi, hein, en 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Hein. Il y a une restauration progressive de l'image de soi qui fait partie de la sanctification. La sanctification, c'est la progression chrétienne. Donc Dieu m'a purifié, il me voit comme son enfant bien-aimé, Malgré mes chutes, malgré les pièges du diable et les difficultés, Dieu veut que je me considère moi-même comme propre et justifié. Nous notons aussi qu'il est question du pardon accordé par Dieu dans le Notre Père. Et il y a un des versets de Notre Père, une des demandes dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est le seul verset du Notre Père que Jésus commente après l'avoir donné, parce que Jésus dit, après Notre Père, il explique « Si vous pardonnez aux humains leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux humains, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est en Matthieu 6, verset 12, puis les versets 14 et 15. Voilà qui semble de nature à faire frémir. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés par Dieu. Dieu désire en effet que nous pardonnions. Mais fort heureusement, comme dit le psaume 103, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, il se souvient de notre nature pécheresse aussi. Et nous avons tous souffert de la part de quelqu'un, nous avons tous été avec plus ou moins de gravité victimes, agressions, mauvais traitements, injustices, humiliations, la liste est longue. Parfois il faut vraiment une intervention divine, un miracle pour pardonner. La première chose à faire pour pardonner, et pour obtenir à notre tour le pardon de Dieu, c'est de vouloir pardonner, de renoncer à la vengeance, de ne pas entretenir volontairement l'amertume, ou la laisser en tout cas s'installer durablement. Il faut aussi prendre conscience que Dieu se charge lui-même d'exercer la justice. « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit l'Éternel en Deutéronome 32-35. Nous devons aussi prendre exemple sur Jésus qui, sur la croix, s'est écrié au sujet de ses bourreaux « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ce que nous lisons en Luc 23-34. Il est important aussi de noter que Dieu exige le pardon, mais pas forcément la réconciliation. Il veut nous guérir de la souffrance et de la frustration générée par l'amertume et le désir de vengeance, mais il ne veut pas nécessairement que nous restaurions une relation de proximité avec quelqu'un dont nous avons toutes les raisons de penser qu'il nous fera encore du mal, ainsi qu'à ceux qui nous sont chers. Il est écrit en 1 Corinthiens 15, 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » En revanche, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que, quoi que tu aies fait, Dieu veut se réconcilier avec toi. Il veut te pardonner et passer l'éternité avec toi au paradis, la cité à venir que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. Pour cela, pour cette volonté de Dieu de tout pardonner et de se réconcilier avec chacun d'entre nous, grâce lui soit rendue. Prions. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle du salut éternel. Merci parce que j'ai ma place auprès de toi, parce que tu veux de moi, parce que tu m'aimes. Pardonne mes offenses Seigneur. Donne-moi les ressources spirituelles nécessaires pour que mon cœur soit purifié de l'amertume et des conséquences de mon péché. Renouvelle chaque jour ma foi et mon zèle et reste avec moi toujours.